inserimento alle spalle della difesa del Milan.
L'avant-match avec Hakim Tamim.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Votre rendez-vous du vendredi. Notre ami Abdrahim Bakali à la réalisation, toute l'équipe digitale et nos auditeurs, bien sûr, sans oublier nos consultants. Le football africain à la une. Il y a quelques minutes, le match entre l'AS Vita Club, l'équipe du Congo, et le Raja de Casablanca, deuxième journée de la Ligue des Champions, qui a commencé. 6 minutes de jeu, 0-0. Le Raja a été battu par l'Espérance, le champion d'Afrique en titre. C'était lors de la première journée, l'Espérance qui s'apprête à accueillir la jeunesse sportive de Kabylie, l'Espérance qui va représenter donc l'Afrique lors de la Coupe du Monde. L'Afrique justement, eh bien pas de chance pour l'Afrique lors du trophée du Ballon d'Or. Mané, Sadio Mané, l'international sénégalais, a échoué au quatrième rang. Sadio Mané qui a réussi une très belle saison avec Liverpool, la Ligue des Champions, la Super Coupe d'Europe et également une finale de Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal. On y revient dans un instant. Une histoire de racisme, c'est la presse qui est montrée du doigt aujourd'hui. On y revient tout à l'heure avec Simone Rovera. L'Angleterre, le derby, Manchester United, Manchester City, la valse des entraîneurs. La France aussi, on parlera de Montpellier, du Paris Saint-Germain, de Lyon, de Marseille aussi. Et puis, d'autres informations concernant le football allemand et également les autres championnats. Dans cette première partie, on ira en Angleterre, on ira également en Italie et en France pour retrouver d'abord eh bien, notre ami Hervé Penaud. Bonsoir Hervé.
Bonsoir les amis, quel plaisir d'être en votre compagnie.
Très heureux également Hervé, le championnat de France. Mais avant cela, bien sûr, le football en Afrique, je le disais tout à l'heure, la deuxième journée de la Ligue des Champions qui a commencé aujourd'hui, s'est étalée sur 2 jours. La Coupe de la CAF prend le relais également pour se terminer dimanche. Mais d'abord, l'Afrique, eh bien, les yeux étaient rivés pour les spécialistes du football africain sur, bien sûr, Paris, c'était lundi dernier. Eh bien, on espérait un deuxième ballon d'or pour le continent. Et après, un certain Georges Weah, un ancien joueur de Monaco, du Paris Saint-Germain, du Milan AC, eh bien, Sadio Mané, mais peut-être aussi Sadio Mané, a été victime, a souffert de ce qui s'est passé l'année dernière pour les joueurs de l'équipe de France, champion du monde, les voix qui s'étaient éparpillées en quelque sorte. Et puis, eh bien, il a échoué quatrième. D'ailleurs, le capitaine de la sélection sénégalaise a sorti hier une déclaration, une sortie qui a fait couler beaucoup d'encre, comme quoi si Sadio Mané était brésilien ou européen, il aurait eu le ballon d'or Hervé.
Alors, donc, c'est vrai que ça a fait polémique, ce ballon d'or, mais pas pour le nom du vainqueur aussi, parce que le nom du vainqueur, évidemment, Messi, on peut pas enlever tout ce qu'a réussi Messi durant cette saison, mais comme ça a été un peu moins grand que d'habitude, puisque en Ligue des Champions, ils ont été éliminés avant la finale, juste, eh bien, inévitablement, il y a des gens qui ont encore élevé la voix en expliquant qu'ils ne méritaient pas, mais là, je pense qu'il n'y avait pas de doute là-dessus. Après, Van Dijk avait gagné aussi beaucoup de trophées cette année, et Cristiano Ronaldo était peut-être le joueur qu'on attendait le moins sur ce podium, mais Mané finit quand même assez loin. Il n'a même pas fait le plein de voix en Afrique. Il faut bien se rendre compte qu'en Afrique, c'est vrai que Messi a été aussi très très fort sur les voix africaines, ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu non plus un vote communautaire, et tant mieux, j'allais dire, hein, parce que le but, c'est quand même pas de se dire je vais élire le joueur qui représente mon continent, mais enfin, c'est celui qui correspond au meilleur joueur du monde. Alors, il y a un brin de déception pour Sadio Mané, je le comprends tout à fait. Hein, moi-même, je l'avais dit, j'aurais aimé qu'il remporte ce ballon d'or. Et d'ailleurs, le votant de France Football, Pascal Ferré, hein, qui dirige la rédaction de France Football, avait voté pour Sadio Mané en numéro 1. Donc lui avait mis ça. Mais ce qui est moins bien, c'est qu'on a vu toutes ces critiques autour d'un supposé racisme sur certains jurés qui auraient voté plutôt européen, plutôt Messi, plus que Mané. Ça, faut oublier tout à fait ça. Ça, c'est absolument faux. On l'avait expliqué lors de l'émission précédente, mais le problème de beaucoup de sélections africaines, européennes, c'est qu'elles n'ont pas eu un impact symbolique, j'allais dire, dans les esprits. Et ce qui fait qu'on pense un peu plus facilement à des Brésiliens, à des Argentins, à certains pays européens, évidemment, qu'il y a des sélections qui ne sont pas allées assez loin. Par exemple, je prenais l'exemple de la Coupe du Monde. Si vous faites un parcours incroyable en Coupe du Monde, d'un seul coup, vous avez un impact énorme et vos joueurs sont vus d'une manière assez différente, finalement. Et rappelez-vous du Cameroun des années 90 avec Roger Milla. Ben, d'un seul coup, on regardait le Cameroun d'une manière très, très plus neutre, plus aussi neutre qu'avant, alors que le Cameroun, finalement, ne s'est qualifié qu'une fois pour un deuxième tour de phase finale de Coupe du Monde. Vous voyez, donc, tout ça, c'est un travail. Et puis après, il y a une forme de charisme, il y a plein de choses. La malchance de Mané, c'est d'avoir été dans un club où il y avait 5 ou 6 joueurs qui étaient susceptibles de récupérer des voix. Hein, parce que même Alexander Arnold a récupéré certaines voix, a même été premier chez un jury. Donc ça veut dire que tout ça, cette dilution des votes, eh ben ça a poussé Sadio Mané hors du podium. Il a magnifiquement répondu hier soir, évidemment, mais je pense qu'il faut surtout ne pas rentrer dans ces considérations, parler par exemple d'un vote qui serait anti-africain. Il y a 3 Africains dans le top 10. Il faut pas l'oublier, ça c'est l'une des premières fois qu'on voit ça, hein, avec 3 Africains aussi bien classés, Salah et Mahrez. Donc le Sénégal n'a pas non plus remporté la CAN. Ça aurait peut-être été un plus pour essayer d'accrocher, pourquoi pas, un podium. Mais ce que j'espère, c'est que l'année prochaine, avec ce qu'il a fait cette année, tout le monde va voir que c'est quelqu'un qui s'est installé. Il n'a pas l'antériorité d'autres joueurs. Et ben, qui dit que l'année prochaine, justement, il ne pourra pas remonter encore d'un ou deux crans. De 3, ça va être difficile parce que l'euro va jouer un rôle majeur, à mon avis, dans le vote. Mais il n'empêche que là, il sera bien présent. Et puis, il a répondu comme de la meilleure des manières, comme je le disais, parce que le match qu'il a réussi contre Everton, c'était tout simplement magnifique, même si on peut dire qu'il a raté 1 ou 2 face à face. Mais enfin, quand vous mettez 2 passes décisives et un but, et 2 passes décisives d'un très, très haut niveau, ça veut tout dire. Sadio Mané est un immense joueur, un très, très grand joueur. Et j'espère qu'à l'avenir, il pourra décrocher cette distinction magnifique et le ballon d'or dont tous les joueurs évidemment rêvent d'obtenir.
On rappellera qu'il y a quelques semaines, lors du vote du joueur FIFA, eh bien, ce sont les capitaines et les sélectionneurs. On rappellera que Lionel Messi, qui a reçu donc ce ballon d'or, eh bien, Lionel Messi avait voté pour Sadio Mané, la star de Liverpool, les joueurs du Sénégal. Voilà pour le football en Afrique. On aura l'occasion de revenir sur la deuxième journée de la phase de poule en Ligue des Champions et la Coupe de la CAF lors de nos prochaines éditions. Ça commence, bien sûr, 12 minutes, Vita Club et le Raja. On rappellera que ces deux équipes s'étaient affrontées la saison dernière en finale de la Coupe de la CAF. 3-0 pour le Raja à l'aller, 3-1 pour les Congolais lors du match retour à Kinshasa. Le football en France, pas mal d'affiches ce week-end. Vous choisissez ce que vous voulez. On suivra bien sûr la sortie du Paris Saint-Germain, de Lyon. Lyon, on le sait, Lyon qui reste sur une défaite encore. Et puis également l'Olympique de Marseille et son entraîneur Hervé.
Ah oui, un petit mot quand même, ce André Villas-Boas. Rappelez-vous, il est arrivé, débarqué à Marseille. On se disait, mais qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer? Il a eu un parcours très atypique, magnifique quand il était au Portugal. En Angleterre, c'était quand même l'un des espoirs, hein. Le special two, celui qui devait succéder à José Mourinho. Puis finalement, il a emprunté des chemins de traverse qui l'ont amené en Russie, en Chine. Mais moi, j'ai toujours une immense confiance à cet entraîneur. Je pense qu'effectivement, en Angleterre, il n'a pas tout réussi. Je me souviens que Salomon Kalou me disait, quand il est arrivé à Chelsea, le problème, c'était aussi un problème de jeunesse d'effectif. Il est arrivé en gros au mauvais moment, tout simplement. Mais c'est pas grave. Il a poursuivi son chemin. C'est quelqu'un de très très intelligent, humainement très fort. Tactiquement, on sait évidemment qu'il connaît parfaitement le jeu. Et il est arrivé à Marseille sans faire de bruit, comme si de rien n'était, en dépit de quelques colibets, hein, quelques gens qui disaient « Mais qu'est-ce que c'est que ce Villas-Boas ?» Comme si Marseille pouvait se permettre de dénigrer Villas-Boas en tant qu'entraîneur. Là, c'est quand même un mystère qu'on puisse dire ça en France. Et puis, petit à petit, il a fait son chemin. Il a réussi à mettre son équipe en place, structurer quelque chose de vraiment très précis. En plus, il faut quand même dire que le recrutement cette année a pas été idiot du tout, parce que vous avez à la fois la même et pas la même équipe que l'année dernière. Le fait d'acheter Benedetto, même si en ce moment il marque un peu moins qu'en début de saison, mais enfin il a été très impactant en début de saison, Benedetto, Alvaro, Il manquait un défenseur central important. Et puis, j'allais dire, un retour, et ça c'est capital quand vous voulez avoir une bonne équipe en Ligue 1, celui de Steve Mandanda. Mandanda qui est revenu à un super niveau. Et lui, il a réussi à agréger tout un effectif autour de ça. Il a trouvé son système. Il sait parler aux joueurs. Quand vous entendez les joueurs parler de Villas-Boas, on sent qu'il y a vraiment une... Alors, si ce n'est un amour, mais en tout cas, ils apprécient énormément leur entraîneur. Ils le sentent très proche d'eux et surtout très honnête. Hein. Alors, ça fait souvent débat puisqu'ils mettent en contrepartie des quelques petits tacles glissés à Rudy Garcia, qu'ils estimaient un petit peu moins direct que André Villas-Boas. Mais tout ça fait qu'aujourd'hui, vous avez un OM quand même deuxième du championnat, alors qu'au début de saison, personne les imaginait là. Enfin, moi, j'ai toujours pensé qu'ils pourraient être dans les 3-4, parce qu'en France, avec cet effectif-là, vous pouvez aller loin. Et puis surtout, ils n'ont pas de Coupe d'Europe, ils n'ont rien. Donc voilà, ce match contre Bordeaux, c'est un peu le match du retour des deux équipes qu'on n'attendait pas. Aujourd'hui, si Marseille venait à gagner, alors on verra le résultat du Paris Saint-Germain demain contre Montpellier. À Montpellier, c'est jamais un match facile pour le Paris Saint-Germain. Eh bien, hein, sait-on jamais, s'il finissait l'année en étant à 6-7 points du Paris Saint-Germain, alors je dis pas sait-on jamais pour devenir champion, c'est pas ça, mais simplement pour se dire que c'est quand même énorme de penser que Marseille pourrait éventuellement être dans une lutte improbable avec le Paris Saint-Germain à la fin des matchs aller. Donc franchement, je pense... Chapeau au Villas-Boas qui a réussi à tirer le maximum de cet effectif-là, qui a relancé des certains joueurs, et puis un Payet qui revient à un super niveau. Bon, de là à le voir en équipe de France, c'est un autre débat. Quant à Paris Saint-Germain, bah, c'est un match chaud hein, qu'ils vont disputer. On a fait le retour des trois fantastiques. C'est la première fois que les trois jouaient ensemble cette année. Alors Neymar et Mbappé avaient joué 30 minutes à Bordeaux ensemble. Et bon, tout n'a pas été parfait, loin de là contre Nantes. Mais bon, on attend de les revoir. Il va falloir qu'ils jouent encore ensemble, que l'association se perfectionne. Hein. Ça fait, en plus, physiquement, ils sont pas tous à un même niveau de forme. Hein. On sait bien que Neymar, il a besoin encore de jouer, de la même manière pour Mbappé. Alors ce match à Montpellier va être intéressant.
Voilà donc pour le football africain et également pour le championnat de France. Vous restez avec nous et ensuite on va vous libérer, Hervé. Juste le temps d'accueillir Simone Rovera, notre monsieur football italien. Il y a des matchs intéressants en Italie avec l'Inter face à la Roma, la Lazio également, et qui pourrait rendre un service à l'Inter ou bien relancer la Juve. Mais avant, c'est surtout la une d'un journal qui a fait scandale en Italie en présentant le match entre l'Inter et l'AS Rome. Ça a fait scandale. Les explications avec vous, Simone Rovera, de quoi il s'agit au fait?
Oui, ça a été un gros actu aujourd'hui en Italie, mais depuis hier. En vrai, c'est arrivé après en Italie. Avant, il y a eu un peu une régime mondial de cette une du Corriere dello Sport qui, pour l'expliquer, c'est Black Friday, c'est-à-dire la une du Corriere dello Sport présentait les matchs de ce soir, Inter-Roma, match de vendredi soir, comme un grand match. Mais c'est au-delà d'écrire Black Friday et mettre à côté des joueurs comme Lautaro, Zaniolo, Brozovic, Kolarov, on choisit de mettre Black Friday avec Lukaku et Smalling, ce que c'est pas seulement le Black Friday comme gros événement. C'est que tu veux dire, si tu veux vraiment donner une angle sur le fait que les joueurs Lukaku et Smalling sont d'origine africaine, sont des joueurs noirs, et tu prendre une direction qui n'est pas la bonne. Surtout en plus, si les deux joueurs concernés, ils se sentent offensés par ça, ça veut dire que l'erreur est encore plus grave. Tout ça touche en première personne quelqu'un. Si ils sont touchés, ces joueurs, ça veut dire que ta blague, ta une, ton titre qui voulait donner un effet positif a été totalement raté. Dans ces cas-là, il faut demander pardon, s'excuser. Par contre, aujourd'hui, le Corriere dello Sport a relancé en disant « Mais nous, on a toujours été entre antiracistes. » Et c'est vrai, dans les passés, ils ont fait beaucoup des titres contre les racistes dans les stades. Ils ont défendu Lukaku, défendu Balotelli, ça c'est vrai. Mais cette fois, ils se sont trompés, il faut s'excuser, parce qu'il faut toujours être des bons exemples. Dans la vie, ça peut arriver d'avoir de bonnes intentions, mais après agir mal. Chaque fois qu'on parle, il faut probablement réfléchir deux fois, allumer les cerveaux avant que allumer un ordinateur pour écrire un titre.
Simone, vous restez avec nous, on va parler quand même du côté sportif parce que le week-end ça s'annonce intéressant. Hervé, on le sait, des joueurs comme Balotelli, comme Koulibaly, comme Matuidi ont été victimes de cris racistes de la part de supporters cette fois. Qu'est-ce que ça vous inspire? Quelle réaction après un titre peut-être malheureux?
Ben Simonet a tout dit, hein, parce que c'est vraiment, son analyse est très fine, je trouve. Parce qu'à un moment, il faut aussi que les gens se rendent compte qu'ils ont fait une erreur. Si les joueurs que vous espérez, alors je ne sais pas si c'était défendre, parce que je ne vois même pas où la défense de joueurs noirs en faisant cette histoire de Black Friday, parce que Black Friday, ça veut dire quoi en gros ? Il ne faut pas l'oublier, hein, c'est les ventes moins chères finalement. Hein, donc, et vous mettez des joueurs noirs, donc ils ont été touchés par ça. Et je trouve incroyable qu'aujourd'hui, vu ce qui se passe en Italie, parce que là on parle quand même d'un pays où il y a quand même... eu des exemples récents qui ont prouvé qu'il y avait des immenses soucis. C'est le pays européen, il y a le plus de soucis dans les grands championnats européens, avec les histoires de racisme, les cris de singes, les jets de bananes, etc., etc. Et on vient en rajouter une couche de cette manière-là. Je pense que c'est une erreur majeure de Corriere. Et bien après, il faut s'excuser, expliquer que bon, voilà, on sait pas du tout ce qu'on voulait faire, c'était pas du tout l'idée du projet. Et quand on voit effectivement la réaction de Lukaku et de Smalling, ça veut tout dire. Eux se sont sentis insultés, touchés dans leur chair. Et ce qu'on peut tout à fait comprendre. Donc à un moment, faut aussi réfléchir à deux fois avant de faire une telle une.
Merci beaucoup Hervé Penaud, notre monsieur football français-africain, et à lundi pour revenir sur les principaux résultats, les faits marquants de cette Ligue des Champions, les Coupes africaines bien sûr. On rappellera que beaucoup de matchs intéressants ce week-end, avec des confrontations entre équipes maghrébines ou encore Ali du Caire, qui détient le record de victoire, qui tentera de se relancer après une défaite lors de la première rencontre. Et puis également deux équipes qui se sont affrontées plusieurs fois ces dernières années, l'année dernière d'ailleurs à deux reprises. Les autres fois, c'est l'Wydad de Casablanca et également Sundowns, la formation sud-africaine. On repart chez Simonet. On parlait tout à l'heure, Youssef Laroche qui parle de Lionel Messi remporte le Ballon d'Or 2019. C'est un record. Pensez-vous que ça sera le même scénario pour 2020? On posera la question tout à l'heure. Simonet, au-delà de ce fait divers qui fait la une de l'actualité, sur le côté sportif, quand même, le week-end est intéressant avec Inter, Roma, également la Lazio face à la Juve.
Bah, au-delà de la polémique, il faut parler du terrain, parce que c'est vrai, Inter-Roma, c'est le match, les vendredis plus importants du début de la saison sur le terrain. C'est un match capital pour l'Inter qui doit maintenir la première place, capital pour la Roma qui lutte pour entrer en zone Ligue des Champions. C'est un match où l'Inter arrive avec beaucoup de blessures. Sensi, Barella, Gagliardini, il est privé des trois milieux de terrain, dont deux sont titulaires et l'autre c'est le premier remplaçant. Donc, pour l'Inter, c'est un match très compliqué face à une Roma qui est très en jambes. Antonio Conte pourrait vivre une soirée extraordinaire en cas de victoire, prendre une avance de 4 points sur la Juve, qui demain soir joue à Rome face à la Lazio. Donc, les deux équipes romaines vont tester leur ambition dans ce week-end. Est-ce que la Roma et la Lazio sont bien armées? La Roma pour chercher la Ligue des Champions. Et attention, regardez les classements. La Lazio, s'y bat la Juve, arrive à 3 points derrière les Bianconeri. Imaginez si la Roma fait un cadeau et bloque l'Inter, la Lazio pourrait rentrer, au moins pour l'instant, dans la lutte pour le titre. C'est un week-end décisif, ce week-end, avant la Ligue des Champions. Donc, et l'Europa League, avec des matchs très importants pour la Lazio, pour l'Inter, pour la Roma, et la Juve, heureusement, a déjà fait son boulot. Donc, c'est un week-end sur lequel on va parler longuement, parce que ce week-end pourrait vraiment changer la destination de tous les clubs de haut niveau du top du classement italien pour le reste de la saison.
Simone Roverin, notre monsieur football italien, merci beaucoup. Et à lundi, et puis on prend la direction de l'Angleterre. L'Angleterre à Liverpool, c'est le solide leader, mais cette semaine, ce week-end, bien, on le sait, Liverpool a battu Everton dans le derby, 5-2, et dans la foulée, l'entraîneur d'Everton a été limogé. Ça fait plus de 35 ans que Everton n'avait pas encaissé 5 buts face à Liverpool, ce qui n'a pas plu aux supporters, aux responsables d'ailleurs. Liverpool qui est le solide leader, et puis on suivra surtout le match entre Manchester City et Manchester United. United qui a gagné cette semaine face à Tottenham d'un certain José Mourinho. Tottenham qui a été battu 2-1. C'est Manchester qui a infligé à l'équipe sa première défaite dans ce championnat, en tout cas depuis l'arrivée de Mourinho à la tête de l'équipe londonienne. D'abord, Manchester City, Manchester United, c'est le choc, bien sûr, Aurélien de Vernoy, c'est notre monsieur football anglais. Aurélien, c'est le match, en tout cas l'un des matchs du week-end.
quel que soit le classement des équipes, une affiche dans le championnat d'Angleterre. Là, c'est vrai que les deux équipes sont en quête de victoire. Manchester City en quête de victoire pour ne pas être définitivement décroché par Liverpool, mais aussi pour ne pas céder trop de terrain à Leicester qui continue de très très bien marcher, qui s'est encore imposé en milieu de semaine et qui a 3 points d'avance sur Manchester City. Donc City a vraiment besoin d'une victoire face à United et United a besoin d'une victoire également pour essayer de ne pas être définitivement décroché dans la course à la Ligue des Champions. Ils sont déjà 8 points derrière Chelsea qui est le dernier qualifié pour la Champions League en Angleterre. Et il ne faudrait pas que cet écart continue de s'agrandir parce que ça va devenir très 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 compliqué. Manchester United, certes, est en reconstruction, certes, cherche encore un petit peu son style de jeu avec son entraîneur Solskjaer, mais Manchester United a vraiment besoin de résultats. Et donc ce match va être, je pense, assez intéressant à regarder, d'autant plus qu'il y a un joueur en forme du côté de United, c'est Marcus Rashford, l'attaquant, qui vient d'inscrire un doublé là, ce milieu de semaine et qui pourrait causer quelques soucis à la défense de City. L'autre match à suivre, c'est pas peut-être l'affiche la plus prestigieuse qu'on pourrait imaginer, mais c'est définitivement la rencontre entre Aston Villa et Leicester. Pourquoi ? Eh bien parce que Aston Villa a beau être 16e, c'est l'une des équipes qui a l'un des jeux les plus enthousiasmants cette saison en Premier League, avec deux joueurs particulièrement brillants qui sont McGinn et Grealish. Et de l'autre côté, Leicester, eh bien, c'est de nouveau, comme il y a quelques saisons, la surprise de ce championnat, deuxième au classement, donc devant Manchester City, 8 points derrière tout de même derrière Liverpool, mais une équipe qui joue très très bien. Imaginez, Leicester a la même différence de but que Manchester City, plus 26, c'est plus que Liverpool, c'est extraordinaire ce que fait Brendan Rodgers avec cette équipe, et là aussi avec quelques joueurs de très très grande qualité. Jamie Vardy, je vous en ai déjà largement parlé, mais aussi il y a un milieu de terrain très solide, avec notamment Youri Tillmans, l'ancien joueur de Monaco, et puis l'un des prodiges, je trouve, du foot anglais depuis quelques années, c'est James Maddison, qui est vraiment très très fort aussi cette saison, qui a encore pris une autre dimension. Donc voilà, vraiment un match à regarder, je pense que ça peut donner une rencontre très intéressante.
Voilà, donc Manchester City contre Manchester United, c'est le match du week-end. Liverpool, un match intéressant également, ça sera face à Bournemouth, et on le sait, c'est une équipe qui peut faire quelques dégâts. Nos auditeurs, Aoula Abidine, qui pense que Messi, eh bien, on l'aime beaucoup pour son jeu, c'est le footballeur doré. Et également, le bonjour à Mohamed Ait Ali. On va parler de Messi, du Ballon d'Or, tout à l'heure, dans la deuxième partie. Messi, notamment, et d'autres sujets, ça sera dans la deuxième partie. La deuxième partie de l'avant-match nous emmène en Allemagne et également en Espagne. L'Espagne, vous le savez, c'est le Ballon d'Or, mais l'autre jour, il a laissé filer lors de la présentation, lorsqu'il a reçu son Ballon d'Or, je parle de Lionel Messi, eh bien, une petite phrase, il a parlé de retraite. Il n'a pas dit que je vais prendre ma retraite, mais n'empêche, il pense à la retraite, bien entendu. Sixième Ballon d'Or pour Lionel Messi. Une petite phrase qui a été interprétée, on verra cela dans un instant, avec Frédéric Kermel, Fred, qui reviendra sur les blessures, plusieurs joueurs du Real, Gareth Bale, Marcelo et Hazard, qui sont indisponibles et incertains pour le Classico face au Barça. Et puis également, on parlera du football allemand, parce que ce week-end, il y a un match qui est intéressant, et un match, l'un des sommets des années 70-80, David Lortolari va nous le confirmer dans un instant. David est avec nous, bonsoir David.
Bonsoir Hakim, bonsoir à tous.
J'ai dit match des années 70-80, c'est bien ça ou bien j'ai tort ?
Ah ben non, c'est complètement ça, puisque le Borussia Mönchengladbach a connu sa décennie glorieuse dans les années 70. 5 titres de champion à ce moment-là, et il est à la recherche, ses supporters en tout cas aimeraient retrouver cette euphorie-là, et ils sont en train de la retrouver en partie. Ça peut être un match qui confirme vraiment leur renouveau et le retour du Borussia au devant de la scène en Allemagne.
Il y a plusieurs joueurs qui sont à la une, et surtout un jeune Thuram qui marche sur l'eau en quelque sorte.
Oui, Marcus Thuram, le fils de Lilian. Lilian Thuram qui était champion du monde défenseur en 1998 avec la France. Marcus Thuram est le joueur qui réussit en ce moment à Mönchengladbach, qui porte l'équipe vers le haut du classement, qui est en réussite. Je doute d'ailleurs qu'il reste bien longtemps au Borussia s'il continue sur ces performances-là. Marcus Thuram a suppléé Alassane Pléa, qui a été longtemps blessé, et l'entraîneur a été chanceux de cela, évidemment, parce que ça fait que maintenant, avec le retour de Pléa, il y a deux attaquants très intéressants à Mönchengladbach.
Voilà pour Mönchengladbach qui va affronter le Bayern Munich. Le Bayern, on le sait, j'allais dire sans entraîneur. Non, c'est pas sans entraîneur, mais n'empêche, eh bien, la question de l'entraîneur se pose beaucoup ces derniers temps. Vous restez avec nous, on va revenir sur le Bayern Mönchengladbach, le Bayern aussi, l'avenir de cette équipe également, qui reste sur une défaite d'ailleurs. Mais d'abord, on va accueillir le Ballon d'Or en quelque sorte, celui où vont les derniers ballons d'or. Si c'est pas Ronaldo, c'est Messi. Si c'est pas Messi, eh bien l'année dernière, c'était Modric. Frédéric Hermel, notre monsieur football espagnol. Bonsoir, Fred.
Bonsoir, Hakim. Bonsoir à tous.
Eh bien, Fred, je parlais tout à l'heure, il y a des questions de nos auditeurs. On salue Polo Adam, Youssef Laroche, qui parlait des rencontres du week-end et les matchs qu'il a choisis pour suivre ce week-end. Mohamed Ait Ali qui parle également des absences côté Real. On va y revenir dans un instant, Mohamed Ait Ali. Mais d'abord, Lionel Messi, l'autre jour, eh bien, il a prononcé une petite phrase et qui a fait, j'allais dire, couler beaucoup d'encre. Il a sorti le mot « retraite ». Messi est âgé de 32 ans. Il veut rester au Barça, bien sûr, mais on imagine qu'il veut aussi aller en Argentine pour finir sa carrière, Fred.
Ah, cette petite phrase de Léo Messi qui commence à dire « oui, bah, il serait peut-être temps de penser à la retraite ». Oui, ça, c'est un mot qui commence à voyager dans sa tête. Bah oui, est-ce que c'est une manière pour l'Argentin de mettre la pression sur le Barça pour un nouveau contrat encore plus intéressant financièrement? Est-ce que c'est une manière de préparer le Barça à son départ? Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le rêve de Messi, c'est de repartir en Argentine, terminer sa carrière à Rosario, dans sa ville d'origine, et de faire au moins une saison là-bas. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de joie du côté des Barcelonais, des dirigeants barcelonais, parce que Messi réussit cette chose historique de gagner 6 ballons d'or. Hein. Voilà, le seul dans l'histoire de ce prestigieux trophée en avoir gagné 6, un de plus que Cristiano Ronaldo. Mais cette petite phrase de Messi, qui ne parle jamais pour ne rien dire, il parle pas beaucoup, donc quand il parle, ça veut toujours dire quelque chose, a quand même fait sonner les alarmes, hein, fait tirer les alarmes du côté de Barcelone, parce qu'on se dit que est-ce qu'on va pouvoir compter sur Messi pendant de nombreuses années? Ben non, voilà, c'est un trentenaire aujourd'hui qui ne peut plus jouer tous les matchs à 100% et qui commence à réfléchir à sa retraite. Et c'est d'autant plus flagrant et d'autant plus inquiétant pour le Barça qu'on a bien vu lors de la victoire sur la pelouse de l'Atlético dimanche dernier que Messi, c'est encore lui qui fait basculer le match en faveur de Blaugrana. Donc on va voir dans les prochaines semaines, les prochains mois, mais il faut vraiment commencer à se préparer du côté du Barça à une évolution dans la carrière de Messi. Non, il sera là, pas plus là tout le temps.
Pablo Polo Adam qui passe le grand bonjour à Fred. Fred, nous allons écouter dans un instant Zidane sur la blessure d'Eden Hazard, également Mendy, on le sait, eh bien l'international français qui devrait remplacer Marcelo, le joueur brésilien qui est blessé. Mais un petit crochet par l'Allemagne avant de revenir en Espagne. La réaction en Allemagne quand c'est Messi qui a reçu le Ballon d'Or, bien sûr. Dans l'ensemble, ça a été accepté, mais n'empêche, certains ont pensé que Sadio Mané, l'international sénégalais de Liverpool, aurait pu gagner ce titre. Mané a échoué au quatrième rang, David.
Oui, j'en faisais d'ailleurs partie, hein, puisque Mané nous a quand même impressionné avec Liverpool jusqu'au trophée en Ligue des Champions. Mais on va pas refaire la hiérarchie, puisque de toute façon c'est un collège de votants et c'est un vote collectif. En Allemagne, on a vraiment pris l'information de façon factuelle, informative, parce que il y a depuis les succès de l'Espagne en fait dans l'Euro et dans la Coupe du Monde, il y a un espèce de respect quasi définitif, ou du moins pour l'instant très fiable, de la part des Allemands aux joueurs et aux équipes qui pratiquent un jeu très technique. Donc on s'est un peu incliné devant Guardiola, même s'il y a eu de grands débats vis-à-vis de ses 3 ans passés au Bayern. On s'incline devant Messi, on s'incline aussi devant les perfs de Cristiano Ronaldo, et en Allemagne on a donc entériné ce trophée sans faire un grand débat par rapport à Sadio Mané. Bien sûr, le débat annexe quand même, ça a été sur Lewandowski, puisque il en est à une moyenne qui est supérieure à un but par match. Il propose le meilleur football de sa carrière. Donc on aurait peut-être en Allemagne, c'est ce qui a légèrement transpiré, on va dire, on aurait préféré un Lewandowski un peu plus haut encore dans le classement. Mais c'est à peu près tout ce qui a été discuté autour du Ballon d'Or.
Voilà donc pour le Ballon d'Or. On va revenir dans un instant avec vous sur l'entraîneur du Bayern et également sur le coup de gueule de l'international allemand, même s'il ne porte plus les couleurs de l'équipe allemande. Je parle de Ozil, le joueur d'Arsenal, très en colère. Peut-être c'est la Gazette qui était visée après la défaite face à Brighton. On y revient dans un instant. Il y a des questions à propos des blessures qui sont nombreuses côté Real Madrid à l'approche d'un rendez-vous très important, d'autant plus que les matchs sont intéressants. Ce week-end et également la semaine d'après, sans oublier la Ligue des Champions et un déplacement en Belgique, même si, on le sait, le Real est déjà qualifié. Eh bien, il y a Marcelo, il y a Gareth Bale et surtout Eden Hazard qui ne pourront pas jouer, qui se sont blessés, Fred.
Et oui, l'infirmerie du Real Madrid se remplit de nouveau. Bale, Hazard, Marcelo. Bon, ces trois joueurs ne seront pas là le 18 décembre prochain pour le fameux Classico, hein, qui devrait, je dis bien devrait, parce qu'il y a toujours une menace avec les séparatistes catalans et les manifestants sur cette rencontre. Ce match qui avait été reporté, on s'en souvient, et qui devrait toutefois se dérouler le mercredi 18. Marcelo, blessure musculaire. Est-ce un quatrième blessure cette saison pour le Brésilien? Est-ce que c'est un problème? Franchement, on va être honnête, pour un match au Camp Nou, je ne suis pas sûr que Zidane avait pensé à Marcelo comme titulaire. Parce qu'on voit très bien qu'offensivement, le Brésilien apporte encore des choses, mais que défensivement, c'est une catastrophe. Donc Ferland Mendy est tout à fait capable d'assurer le poste de latéral gauche. Je dirais même que quelque part, ça enlève un choix cornélien à Zidane. Voilà, c'est Mendy qui va jouer. Gareth Bale, ça fait belle lurette que Gareth Bale n'est plus un titulaire pour Zidane. Franchement, son dernier match, c'était pathétique. Le match sur la pelouse d'Alavés à Vitoria, tous les Madrilènes avaient été bons sauf Bale. Donc Bale blessé, oui, c'est un problème. Enfin, c'est pas gravissime, parce que on voit très bien que le jeune Rodrigo fait parfaitement l'affaire. Et puis Hazard, oui, c'est un peu plus grave que prévu, cette blessure contre le Paris Saint-Germain. Donc il ne sera pas là au Camp Nou. Ça peut être une grosse déception pour Zidane, parce que le Belge était en pleine progression. Mais bon, là aussi, comme on voit que le milieu de terrain du Real à 4, avec notamment Isco dans un milieu en losange, et qu'Isco lui fait de très bonnes rencontres contre le PSG à Alavés, etc. Bon, Zidane est un pragmatique. Donc oui, il est sûrement déçu de ses blessures qui s'accumulent. Mais d'un autre côté, il y a des solutions. Et c'est bien ce qui compte pour un entraîneur, c'est d'avoir des gens sur le banc. Et comme Zidane fait toujours bosser tout le monde pour que tout le monde soit prêt au moment nécessaire, Zizou s'adaptera, parce que c'est un pragmatique.
Fred, vous restez avec nous. Zidane justement était en conférence de presse tout à l'heure. Il a évoqué les blessures, les absences. Et il a commencé d'abord par Eden Hazard. On écoute Zizou.
C'est une très mauvaise nouvelle. C'est un joueur qui a montré dans ses dernières prestations le joueur important qu'il est pour, ou qu'il va être en tous les cas, pour notre futur et pour notre équipe. Mais à chaque fois, j'ai envie de dire que c'est général. Moi, j'aime pas avoir mes joueurs en dehors par rapport à une blessure, donc encore moins Eden, qui revenait très très bien, était en grande forme. Il avait montré ses qualités comme il avait démontré partout dans le monde. Là, il le faisait avec le maillot blanc, et c'était important pour lui, pour nous. Un contretemps, c'est juste un contretemps, j'ai envie de dire. Et le contre-temps, ben, j'espère qu'il ne va pas durer longtemps pour nous.
Voilà, le contre-temps, les blessures qui sont nombreuses du côté du Real, mais le Real, on le sait, a un effectif, dispose d'un effectif très riche et peut faire face à ses absences. Frédéric, vous avez également posé la question à Fred à propos de Mendy, bien sûr, celui qui devrait remplacer Marcelo. Eh bien, on écoute Zidane à propos de l'adaptation du joueur français.
De toute façon, sur le terrain, non, il n'y a plus d'adaptation à avoir. Là. Sur le terrain, il est bien intégré, il est bien ancré. Aujourd'hui, il a justement la possibilité de jouer. Quand il l'a fait, il a bien démontré sur le terrain qu'il avait sa place ici. Maintenant, après, pour le reste de son intégration en dehors du terrain, il va falloir qu'il se mette un peu plus à l'espagnol, parce que c'est quand même très important. Et voilà, pour le reste, s'adapte petit à petit. Mais l'espagnol, il en a besoin.
Voilà, il doit apprendre l'espagnol pour Mendy. Paulo Adam qui dit que Lionel Messi n'en finit plus de battre des records. C'est la réalité. Il nous reste 4-5 petites minutes avant de revenir vers Fred pour parler de l'Atlético. Eh bien, puisqu'on parlait de l'entraîneur du Real Madrid, du côté du Bayern aussi, eh bien, il y a des questions qui se posent à propos de l'entraîneur depuis le départ de Kovac. Eh bien, il y a son adjoint, plutôt celui qui a pris le relais. Mais n'empêche, il y a beaucoup de noms qui circulent, peut-être au mois de janvier, peut-être à la saison prochaine. Qu'est-ce qu'il en est au juste, David ?
Oui, alors on fait le tri et finalement, ils sont assez confortables, les dirigeants du Bayern, à propos de cet entraîneur qu'ils veulent pour les prochains mois et pour la saison prochaine. On a tiré un trait, semble-t-il, sur Mauricio Pochettino. On voudrait garder Hansi Flick dans le staff parce que Hansi Flick, malgré la défaite de la semaine dernière contre Leverkusen 2-1, malheureuse, a très bien réussi ses débuts avec le Bayern, son décollage avec le Bayern. On voudrait le garder et on aimerait former un attelage à Munich entre Hansi Flick et Thomas Tuchel. Et à l'issue donc de la saison, parce que bien évidemment on ne va pas débaucher Thomas Tuchel du Paris Saint-Germain, mais c'est ce qui ressort des discussions. Et c'est vrai qu'un attelage entre Tuchel, dont la façon de jouer, dont la façon de pratiquer le football plaît beaucoup à Munich, et Hansi Flick, qui est un excellent manager et qui peut donc être un très bel entraîneur adjoint aussi, ce duo-là pourrait faire du sens à partir de l'été 2020. Et donc c'est la piste qui semble sur laquelle on semble travailler en ce moment. Voilà, y avait plusieurs noms qui circulaient, des shortlists. On a écarté Pochettino, semble-t-il, et on se dirigerait pour donc dans un peu plus de 6 mois vers un attelage possible. Flick ayant expliqué qu'il n'était pas contre cette solution, ce qui ouvre quand même une porte réelle et claire à l'arrivée d'un entraîneur de renom en plus de l'entraîneur actuel.
Un Flick dans le staff, c'est pas mal, David, hein, comme expression. On passe à autre chose. Qu'est-ce qu'il a, Mesut Özil, l'international, l'ancien international allemand d'Arsenal? On l'a vu en colère. C'est vrai qu'Arsenal, eh bien, ne tourne pas bien. Changement d'entraîneur pour l'instant. Eh bien, les contre-performances se succèdent. Qu'est-ce qu'il a, Özil?
Défaite encore, effectivement, contre Brighton, je crois, le dernier match. Mesut Özil a quand même enregistré, Hakim, sa première passe décisive de la saison. Et en Allemagne, on surveille de très près le pouls de ce joueur-là, parce qu'il a toujours déchaîné les passions, il divise beaucoup, il y a ses défenseurs, il y a ses détracteurs. Et cette scène où on le voit à la fin du match aboyer contre ce qu'on pense être des coéquipiers. On le voit crier « Laka » sur les images et on pense que c'est à destination de la casette, mais on se demande aussi si ça n'est pas un désespoir ou une frustration vis-à-vis des supporters. Mais Mesut Özil ne va pas bien, n'est pas très performant, n'arrive pas à porter son équipe. Et on se demande si ça n'est pas simplement l'expression d'un ras-le-bol, d'un désespoir footballistique, à défaut d'être un désespoir peut-être plus que cela, même extra-sportif. Et on s'interroge en Allemagne évidemment beaucoup sur la destinée proche, future, le futur immédiat de ce joueur-là, qui certes n'est plus en sélection, mais qui continue de déchaîner les passions et de recevoir quand même des messages à la fois méchants pour ceux qui ne l'aiment pas et extrêmement gentils de la part de ceux qui l'adorent, parce qu'il a laissé quand même une trace indélébile dans l'histoire de l'équipe nationale.
Rapidement, David, on a encore 30 secondes. Rapidement, Est-ce qu'on peut parler de gâchis quand on parle de Mesut Özil?
Oui, oui, oui. Il faut parce qu'il a, il avait un pied gauche bien supérieur, une qualité, un talent bien supérieur comme joueur, technicien à ce qu'il a finalement réussi dans sa carrière. Il a eu un très très beau palmarès. Il a été champion du monde avec la Mannschaft, mais la constance, il n'a jamais eu. Et aujourd'hui, il est en train de finir sa carrière de façon négative. Et encore une fois, il fait le désespoir de ceux qui l'adorent en Allemagne.
Merci beaucoup, David Lortolari, notre monsieur football allemand. Il se retrouve lundi prochain pour revenir, bien sûr, sur les principaux faits marquants du week-end. Merci, David, et bonne soirée. On passe le bonjour également à nos auditeurs, Samir Ouarab, tous les autres auditeurs, Khaoula Abidine, à l'analyse riche et intéressante. Merci à vous tous. Merci à notre ami Abdrahim à la réalisation, l'équipe digitale, l'équipe technique. Et on se retrouve, bien sûr, lundi prochain pour revenir sur les faits marquants du week-end. Sans oublier les coupes africaines, vous le savez, la Ligue des Champions, c'est la deuxième journée. Et également la Coupe de la CAF, le Maroc a 4 représentants, le Hassané d'Agadir et l'équipe de Berkane en Coupe de la CAF, le WAC et le Raja en Ligue des Champions. Bonne soirée à l'écoute de Média.
Dybala centralmente, ancora grande idea! Vantaggio Juve, ha sorpreso con un inserimento alle spalle della difesa del Milan.
Buona partita per il Milan,
gol,
L'avant-match avec Hakim Tamim.